Aujourd'hui, le pétrole ne vaut plus que des clopinettes, trois fois moins qu'il y a deux ans.
Il suffit de survoler certaines régions de Bosnie pour voir que la guerre civile est devenue une réalité.
Rupture, l'émission qui décrypte les images d'archives de la RTBF en partenariat avec la Sonoma, avec Thierry Piel, Ulrich Heugeveld et Thomas Cox.
Alors bonjour à tous, on est dans une nouvelle édition de Rupture, émission réalisée par Radio Géopolis en lien avec la Sonoma, les archives de la RTBF, dans lesquelles nous décryptons des moments charnières de l'actualité internationale. Aujourd'hui, la décennie noire qui a plongé l'Algérie, on le sait, dans la violence au cours des années 90, des années 90. Pour en parler autour de moi, Thomas Cox et puis de Géopolis et Thierry Piel, de maître de conférence à l'Université de Nantes. Merci à tous les deux d'être là. Alors pour commencer, je propose qu'on se plonge dans un court documentaire de l'année 88 qui documente la situation sociale dans laquelle se trouve alors l'Algérie.
Aujourd'hui, le pétrole ne vaut plus que des clopinettes, trois fois moins qu'il y a deux ans, et toutes les contradictions du système éclatent. Chute vertigineuse des investissements publics, montée en flèche du chômage, 50% des jeunes de 20 à 24 ans sont sans emploi et sans espoir. Flambée des prix et pénurie totale, puisque l'agriculture a été quasiment abandonnée pendant 20 ans.
Alors Thierry, on le voit dans les images, on fait face à un pays qui est vraiment dans une détresse économique, un chômage de masse, une jeunesse sans espoir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une économie qui n'a pas su se réinventer depuis la décolonisation finalement ?
C'est-à-dire ce qui s'est passé fondamentalement, c'est que le programme du FLN, donc, qui est le parti unique, qui s'impose d'ailleurs très rapidement, dès 1962 finalement, va vouloir développer effectivement un développement de type socialiste, avec effectivement la collectivisation des terres. Après, il y a une politique aussi d'industrialisation qui est très importante dans les années 70. Alors, effectivement, il y a la manne pétrolière qui a fait illusion pendant un certain temps. Et là, quand on arrive effectivement à la fin des années 80, on n'est plus là. C'est le creux de la vague au niveau des matières premières. Et effectivement, l'Algérie souffre de gros, gros problèmes. Alors, qui sont dus aussi à une démographie galopante, je crois qu'il faut le rappeler. Mais il est vrai que les politiques menées, entre autres sur le plan agricole, ont été catastrophiques et ont poussé une grosse partie de la population rurale dans les villes. Et donc, c'est ce chômage de masse que l'on observe. Et donc, tout cela, bien sûr, on le voit, conduit petit à petit vers un certain mécontentement. Même si le président Chadli, qui donc a succédé à Wari Boumediene en 79, a mené des politiques de libéralisation dans certains domaines économiques, j'entends, mais par contre, sur le plan politique, ça ne suit absolument pas, et donc c'est peut-être à ce moment-là, effectivement, qu'on voit qu'il y a un certain divorce qui se produit entre la population d'une part, qui ne trouve pas son compte, et pour qui le grand mythe du FLN qui a créé l'Algérie commence, il faut le dire, un petit peu à s'estomper.
Et alors le divorce dont vous parlez, il est illustré par des émeutes qui vont avoir lieu en 1988, en octobre, et qui vont largement ébranler le régime. On voit des images de la Sonoma qui en témoignent.
De nombreuses arrestations ont encore été opérées pendant le couvre-feu cette nuit à Alger. Cela porterait le bilan des interpellations à plus de 1000 maintenant. Aujourd'hui, le centre d'Alger est resté calme, à part quelques actions très ponctuelles de petits commandos qui opèrent en silence et se déplacent très rapidement. Ces commandos n'ont plus rien à voir avec les jeunes inorganisés des premiers jours. Ceux-ci sont manifestement entraînés et agissent avec ordre sur des points précis. À l'ouest, Oran, la deuxième ville du pays, est toujours sous haute surveillance et on signale une reprise en fin d'après-midi de l'agitation qui a déjà beaucoup endommagé le centre-ville. À l'est, toute la Kabylie est en alerte rouge et de nombreux villages de cette région prompts au soulèvement ont déjà beaucoup souffert des événements de ces dernières heures. Mais en cette fin de journée, le point le plus chaud risque d'être Kouba, une banlieue populaire de la capitale. Selon des témoins oculaires, l'armée aurait tiré cet après-midi sur un groupe de personnes. Il y aurait eu trois morts.
Alors Thierry, les images évoquent ces émeutes hein, qui vont quand même être réprimées assez, assez rapidement. Est-ce qu'il y a une dimension d'islamisme déjà dans, dans ce mouvement populaire ?
Alors c'est pas, il n'y a pas que cela. Disons qu'il faut d'abord rappeler que tout au long des années 80, il y a une montée en puissance de l'islam. On le constate à la suite d'événements parfois très anecdotiques, comme les obsèques par exemple d'une personnalité connue des milieux religieux musulmans. Et il y a aussi un mouvement qui existe déjà. Donc un mouvement islamique armé qui quelque part est un peu l'ancêtre de ce qui va apparaître bientôt au moment effectivement où la guerre civile va s'abattre sur l'Algérie. Et ce mouvement est combattu bien entendu, mais on voit que aussi le régime cherche à faire des concessions. On le voit trop, entre autres nettement dans le fait qu'en 84, par exemple, il y a un code de la famille qui a été révisé, mais dans un sens islamique. Donc on voit, il y a à la fois l'arabisation, bon, qui peut se comprendre par rapport au passé colonial français, mais il y a aussi une certaine islamisation, je dirais, de la vie quotidienne, qui apparaît très nettement. La religion apparaissant d'ailleurs comme une valeur refuge dans un pays qui semble partir un petit peu à la dérive, donc il y a un petit peu tout cela. Et donc cela, effectivement, est bien présent. Mais il n'y a pas que cette opposition-là, il y a d'autres oppositions, bien évidemment.
Et peut-être justement, Thierry, peut-être dire un mot sur cette fameuse région de la Kabylie, hein, d'où part souvent beaucoup de contestations en Algérie. Hein.
Alors oui, parce qu'il y a une particularité, c'est que les Kabyles, je dirais, revendiquent une certaine autonomie culturelle qu'on leur dénie, puisque leur langue n'est pas admise comme une langue officielle. Donc c'est vrai que déjà, dès après l'indépendance, hein, on a 2-3 ans de guerre civile, et c'est là que ça se passe. Hein, c'est avec Sinaï Aït Ahmed, c'est là que ça se passe. Alors en 80, rebelote, effectivement, on a à nouveau un mouvement de protestation extrêmement fort qui se produit à ce moment-là, et on remet ça effectivement en 88. Ce sera pas le dernier d'ailleurs, mais en 88, là on va avoir une sorte de faisceau, même 86. On a même des 86, et en 88, effectivement, là on a une sorte de convergence finalement des protestations qui vont se manifester dans les événements donc d'octobre 88, justement.
Alors, justement, un des tournants de cette guerre civile, ça va être les élections de 1991, où un nouveau parti va émerger et presque devenir victorieux. C'est le sens des images de la RTBF qu'on visionne.
Et la victoire du fils, c'est bien, vous croyez, pour les femmes ?
Bien sûr.
Pourquoi ?
Pour l'Oma Islamia.
Mm-hmm. Et ça va régler les problèmes ?
Bien sûr. Bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, vous croyez ?
Hein ?
Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, le fils ?
On ne sait pas.
Le fils, il est... Hein ?
Vous allez voter au deuxième tour encore ?
Le fils ?
Oui, le 16, Inch'Allah.
Qui est là ?
Aussi pour le fils ?
Pour le fils, toujours pour le fils. Il n'y a rien, le fils.
Les anciens, par contre, sont plus réticents et certains, non sans courage, avouent leur inquiétude devant l'instauration d'un État fort qui, islamiste ou non, ne leur plaît pas vraiment.
Personnellement, ça ne fait pas plaisir. Ça me fait plaisir si c'était un démocrate, oui. Parce qu'un démocrate, il y a plus de liberté de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, vous voyez. Tandis que si c'est le fils qui passe, c'est un parti unique.
Ça viendrait comme dans
c'est
le passé.
La même chose, comme si c'était le FLN d'avant. Un parti unique.
Alors Thierry, on voit dans cette vidéo une femme qui parle du FIS, donc le Front Islamique du Salut. C'est un parti qui s'est développé très vite. Pourquoi spécifiquement à ce moment-là et comment aussi il s'est développé si rapidement ?
Eh bien parce qu'il y a eu un vrai mouvement de démocratisation en fait, de la vie politique algérienne, hein, puisque à l'issue des événements donc, d'octobre 88 dont nous avons parlé, eh bien, le président Chadli a décidé de libéraliser un peu son régime. Alors quand je dis libéraliser, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'entre 88 et 91, on va dire que l'Algérie a connu une page d'histoire assez unique qui s'est refermée par la suite. Où en effet les partis ont pu apparaître, la presse, la culture, tout ça a été quand même très largement libéré. Et donc parmi en effet les formations politiques qui apparaissent dès 89, on trouve effectivement le Front Islamique du Salut qui représente donc ce parti politique qui s'arc-boute sur les valeurs de l'islam. Et je répète, il y a d'autres partis qui apparaissent, mais celui-ci, on voit bien, est en pointe pour les raisons que j'évoquais, à savoir qu'il inspire une certaine confiance. Il apparaît comme le parti qui n'est pas corrompu, parce que ce qu'on reproche beaucoup au régime du FLN, c'est sa corruption. Il faut quand même le dire, un parti qui est quand même un peu à bout de souffle à ce moment-là. Et donc, effectivement, ça entraîne des élections pluralistes. Et c'est donc en effet, au début de l'hiver 91-92 que tout va se nouer finalement. Avec un premier tour, en effet, où le fils l'a emporté. Hein, donc cette dame, elle attend évidemment le deuxième tour avec impatience. Deuxième tour qui n'aura jamais lieu puisque les législatives seront annulées.
Et c'est cet événement qui peut être considéré comme le déclencheur de cette décennie noire, de cette guerre civile.
Bah, disons qu'en suspendant le processus démocratique, on crée forcément du mécontentement. Par ailleurs, le président Chadli est poussé à la démission. En fait, on pense que c'est lui qui avait cherché à se maintenir au pouvoir en menant cette politique de démocratisation, parce qu'on est dans des règlements de compte entre clans, que ce soit du côté du FLN ou de l'armée, qui bien sûr joue un rôle très important, Chadli étant lui-même un militaire. Et donc il est mis sur la touche. Quelque part, c'est son échec, hein, parce que là, c'est l'arrivée en vue effectivement du fils au pouvoir. Donc là, le FLN ne peut pas accepter ça. Et donc, c'est la création d'un haut comité d'État qui suspend quelque part les institutions provisoirement. On appelle un ancien du FLN qui a longtemps été un opposant, c'est ça qui est étonnant, il s'appelle Mohamed Boudiaf, mais il cherche à trouver une figure historique qui puisse remonter le moral de tout le monde. Il va faire un mandat de 6 mois avant d'être assassiné, mais surtout, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a une détérioration assez rapide de la situation intérieure. D'abord, sur des attentats ponctuels, on va dire, et puis petit à petit, parce que le fils a été interdit, donc parce qu'une armée islamique du salut a pris la place, parce qu'il y a une radicalisation dans la radicalisation avec le GIA, le groupe bien sûr islamique armé, tout cela conduit petit à petit, en effet, vers une guerre civile qui atteint son paroxysme, on va dire, dans les années 93-96.
Et alors justement, c'est le sens des images qu'on va visionner, des images du 22 décembre 1995-1995 avec une journaliste de la RTBF qui fait un voyage plus que compliqué entre Alger et Chlef.
À partir de là, vous ne verrez malheureusement pas grand-chose des images que nous avons filmées. Un hélicoptère de combat lance-roquettes est entré en action. Juste avant notre départ d'Alger hier, on nous a obligés à effacer ces images. Ce que nous savons et que nous avons vu, c'est que l'accrochage a fait 2 blessés parmi les soldats et 3 tués parmi les terroristes. 3 tangos abattus dans le langage militaire. L'un d'eux n'avait pas plus de 15 ans. Dans sa poche, on a retrouvé des bonbons.
Alors Thierry, cette guerre civile évidemment était tragique pour le pays. Peut-être est-ce que vous pouvez rappeler les différents protagonistes qui s'affrontent ?
Ben, d'un côté, on va dire qu'on a le gouvernement algérien qui est représenté d'abord par ce haut comité d'État, puis ensuite par la figure de Yamine Zeroual, donc un militaire qui, on va dire, prend le pouvoir en 1994. Qui va se faire élire président donc de l'Algérie, qui va même créer un parti, le Rassemblement National Démocratique, qui est censé être une sorte de grand parti fédérateur, qui a un peu pour but de faire oublier le FLN, quoi, quelque part qui est plus trop en odeur de sainteté, et qui se montre évidemment très favorable à une action violente et une riposte la plus violente qui soit vis-à-vis, bien entendu, des mouvements terroristes islamiques. Oui, parce qu'il faut penser que l'opposition qui se retrouve à nouveau interdite de séjour, elle tente par contre de trouver une voie pacifique. C'est ce qu'on appelle le forum de Sant'Egidio qui c'était à Rome, donc où effectivement les partis de l'opposition s'étaient rassemblés pour trouver une voie négociée pour sortir de ce conflit. Un conflit extrêmement violent, on dit souvent qu'il y a eu 150 000 morts, hein. C'est toujours difficile de savoir exactement combien de victimes, mais c'est considérable. Donc c'est une guerre extrêmement violente et qui va marquer, évidemment, très profondément les esprits, les Algériens, et qui ne s'achève, je le répète, bien que à la fin des années 90, à ce moment-là, en effet, c'est l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président qui semble apparaître comme quelqu'un qui est hors parti, mais en fait, non, il fait partie des mêmes officines, je dirais, qui permettent à tel ou tel d'arriver au pouvoir. J'ai nommé, bien sûr, Abdelaziz Bouteflika, là encore, une ancienne figure, qui avait un peu disparu depuis longtemps de la circulation et qui revient pour donner une sorte d'air, non pas de renouveau, mais d'ancien, étant donné le fait que c'est quelqu'un, je répète, qui avait déjà fait son temps, mais il apparaît comme la figure du sauveur, celui qui va ramener, je dirais, l'Algérie sur les rails.
Et il ramène la paix en promulguant une amnistie très controversée. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Alors c'est sa force et aussi les limites de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'effectivement, de manière assez habile, il devient président dès avril 1990, donc très vite, il fait voter un référendum sur effectivement une loi d'amnistie, on peut dire, qui est reconduite en 2005. Alors 2005, c'est encore plus important parce que là, il s'agissait plus de faire quelque chose qui rééquilibrait un petit peu les tensions, ou du coup qui les amenuisait. Mais en 2005, c'est carrément une vérité qui la scène. C'est-à-dire, par exemple, il sera même interdit de dénoncer tel ou tel. Donc on considère que l'affaire est close. Donc il y a l'idée aussi de verrouiller, il faut dire, le passé. Donc il faut bien voir aussi qu'il y a quelque chose qui effectivement est imposé d'en haut, qui fait partie d'un roman national. Le FLN en fait retrouve un petit peu son aura d'éléments central de l'identité algérienne, et donc c'est ce qui prévaut. Alors ça marche plus ou moins parce que en fait les Algériens en ont tellement bavé pendant les années 90 que c'est là-dessus que Bouteflika peut se faire réélire joyeusement à chaque réélection. Donc on le voit bien, hein, tous les 5 ans il redevient effectivement, donc en 2004, 2009, etc. Et donc c'est ce qui fait que jusqu'en 2019 on le trouve, mais avec quand même, outre ses problèmes de santé qui limitent un peu son action politique, le fait que le pays, lui, ne s'en sort toujours pas vraiment, hein, et qu'en effet, il s'enfonce toujours un peu plus dans le marasme. Alors, il y a les événements de 2011, les printemps arabes, où là, il est obligé de lâcher un petit peu de lest. D'ailleurs, c'est en 2011, justement, que le couvre-feu, qui avait toujours cours encore à ce moment-là, il faut le rappeler, va cesser. Mais bon, on ne peut pas parler véritablement d'une démocratisation de l'Algérie, bien sûr.
Eh bien, merci Thierry, merci Thomas, et à très bientôt pour de nouveaux décryptages.